un passage très connu dans l'Évangile selon Jean, 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Puis le verset 5. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. N'ont pas comprise donc la parole. Le verset 9. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et puis le verset 18, verset 18, personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dans cet évangile merveilleux, nous trouvons une personne, le Fils de Dieu, le Fils du Père, qui est mentionné ici comme la parole, qui exprime Dieu. Et nous voyons que cette personne merveilleuse a été rejetée d'abord dans sa propre création, vue comme l'ensemble, dans le verset 5, les ténèbres ne l'ont pas comprise. On voit ici une influence méchante et on voit qu'il n'y avait aucune communion entre les ténèbres et la parole ou la lumière. Encore plus loin, on voit dans le verset 10, la deuxième réjection que le Seigneur Jésus, comme étant la parole, était dans le monde et le monde fut fait par lui. On voit ici donc, lui était le Créateur, il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Il était donc rejeté par sa propre création. Et la troisième chose, on trouve dans le verset 11, il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu parmi les Juifs, il est venu chez soi, dans sa maison pour ainsi dire. Dans Zacharie, on lit qu'il était frappé dans la maison de ses amis. C'est chez lui qu'il était frappé. Il est venu chez lui. Et puis, il n'était pas reçu. Quelle pensée! Cette personne merveilleuse, rejetée. Trois fois rejetée. Et maintenant, dans le verset 12, on voit cette exception. Incompréhensible, vraiment. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu. Il y a une exception. Et ça parle donc de l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu. Humainement parlant, selon notre logique et selon aussi ce témoignage que nous avons dans ce verset-là, ce serait impossible qu'aucune personne le reçoive. Mais quand même, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ça implique donc un travail de Dieu, c'est clair. Mais c'est présenté comme quelque chose que nous avons fait. Nous l'avons reçu. Et dans ce temps-là, les disciples qui vivaient dans ce temps-là, eux, ils l'ont reçu. Ils ont été baptisés, etc. Et puis, qu'est-ce que ce verset dit maintenant, dans le verset 12? Il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom. Donc, ils l'ont reçu, ils croient en son nom, et en même temps, on sait que c'est une œuvre de Dieu, et c'est ça que le verset 13 nous montre. Donc, j'aimerais parler maintenant brièvement du verset 12 et 13. Parce que dans verset 12, nous avons cette expression pour la première fois, « enfant de Dieu ». Mais vous avez vu, c'est au pluriel. C'est remarquable que le Seigneur Jésus n'est jamais indiqué comme étant enfant de Dieu. On voit qu'il dit à Pilate qu'il est né, qu'il est venu dans ce monde et qu'il est né pour rendre témoignage de la vérité. Donc, il est né, c'est vrai. En même temps, il était Dieu béni éternellement, c'est clair. Mais il est né, mais il n'est jamais indiqué comme étant enfant de Dieu. Sa relation avec Dieu est tout à fait unique. C'est comme ce verset nous dit dans le verset 14, on ne l'a pas lu, une gloire comme d'un fils unique. Vous voyez, c'est cette relation unique que le Seigneur Jésus avait. Le Fils éternel dans le sein du Père, lui est devenu homme, lui est devenu chair même, comme on a lu dans le verset 14. C'est donc vraiment quelque chose d'unique. Mais en même temps, on trouve toujours dans le Seigneur Jésus un exemple de ce que nous pouvons être maintenant. On l'a vu en rapport avec l'esclave, on a vu ça en rapport avec le disciple, le Seigneur était le parfait disciple, et il y a aussi ce parallèle entre lui, comme il était ici-bas dans ce monde, et nous, comme enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a exprimé ce qui était dans le cœur de Dieu. Dieu, ce qu'on va voir dans 1 Jean, est lumière, Dieu est amour. Et le Seigneur Jésus a manifesté cela dans ce monde. Et on va voir, Dieu voulant, que c'est maintenant notre place, ici, bas, dans ce monde, de manifester Dieu. On a lu dans le verset 18 que personne n'a vu jamais Dieu. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, donc ça ne, le fait qu'il est descendu ici-bas, le fait qu'il est devenu homme n'a pas diminué cette relation qu'il avait éternellement. Il était le Fils unique du Père, il était aussi le moment où il est devenu homme. Cette relation a continué. Il était dans le sein du Père même lorsqu'il parlait avec ses disciples ici-bas. Mais en étant ici-bas, il a fait connaître le Père. Il a fait connaître Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui est lumière. Donc ce que le Seigneur a fait parfaitement ici-bas, sans erreur, sans manquement, nous sommes supposés de faire aussi comme enfants de Dieu. Représenter Dieu, manifester Dieu dans ce monde, dans cette création. Juste encore quelque chose sur le verset 13, où nous voyons l'importance d'une œuvre de Dieu. On a dit dans le verset 12, c'est la grâce souveraine de Dieu qui donne cette exception. Et le verset 13 élabore là-dessus, parce qu'il montre clairement que ce n'était pas selon le sang, on n'est pas né de sang pour devenir enfant de Dieu, etc. On trouve des femmes dans l'Ancien Testament qui ont eu des exercices en rapport avec leurs enfants, qui ont réalisé dans leur relation avec Dieu que leur enfant n'était pas vraiment fils de Dieu. Et je pense maintenant à Ève qui a reçu Caïn. Elle avait pensé que ce serait le Messie. Mais la parole nous montre ici, c'est pas de sang. C'est impossible. Puis dans Seth, elle a reçu une autre qui parle du Seigneur Jésus. Et puis dans Sarah, on voit un autre exercice. Elle voulait avoir un fils pour elle-même. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc elle a suggéré la solution de Agar. Là, on voit la volonté de la chair. Avec les meilleurs raisonnements, les meilleures intentions, la chair ne peut pas produire quelque chose qui est agréable devant Dieu, qui est selon les pensées de Dieu. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu par nos efforts, par les meilleurs efforts de la chair. C'est impossible. Et Sarah a expérimenté ça. Et après ça, elle a eu Isaac, qui était né selon l'Esprit. Et puis, le troisième exercice, c'est ni de la volonté de l'homme. C'est ça qu'on trouve dans Rebecca. Elle a eu deux fils. Puis, on voit que le premier parle de la volonté de l'homme naturel, Ésaü, très fort. Mais il était remplacé par Jacob. Il n'était pas, humainement parlant, pas agréable. Mais là, on voit l'œuvre de Dieu. On peut dire aussi, dans ces trois cas, on voit l'œuvre du Père, l'œuvre du Seigneur Jésus et l'œuvre de l'Esprit. Mais je ne peux pas élaborer là-dessus, on a vu ça un peu dans l'étude sur la Genèse. Mais de Dieu, cette expression « née de Dieu », on trouve au moins 7 fois dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Jean. Et l'expression « enfant de Dieu » qu'on étudie maintenant, on trouve 10 fois. Donc, la première pensée à saisir ici, ce serait que le Seigneur Jésus, quoi qu'il soit jamais indiqué comme étant enfant de Dieu, parce qu'il était le Fils unique, il est quand même notre exemple. C'est lui qui est venu pour briller comme la lumière. Nous n'avons pas lu ce verset dans le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais par contre, nous avons lu verset 9, la vraie lumière était celle qui venant dans le monde éclaire tout homme. Vous voyez, c'est la lumière qui a brillé. Mais Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Donc le Seigneur a manifesté Dieu dans cette création où Dieu était rejeté. Et nous voyons aussi qu'il a manifesté que Dieu est amour. On trouve ça dans le chapitre 3, l'amour de Dieu, dans le chapitre 3, verset 16, mais aussi beaucoup d'autres passages dans l'évangile selon Jean. Et moi, j'aimerais suggérer aussi que ce verset 18 nous parle de cet amour. On voit donc que le Père était déclaré ou fait connu par le Fils. Donc, on voit ici que le Seigneur Jésus est venu pour manifester Dieu, pour révéler Dieu, pour le faire connaître comme lumière et comme amour. Et entre ces versets, on a ce verset très connu, que la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, le verset 17. Là, on voit les deux ensemble. La grâce parle de l'amour exprimé dans cette façon-là. Ce n'est pas l'amour simplement, mais c'est l'amour révélé dans ce monde où Dieu était rejeté. Donc là où cet amour se révèle dans une telle circonstance, c'est la grâce. Mais quand même, la vérité était maintenue. Et la vérité, c'est la lumière. C'est l'expression de la lumière. Donc vous voyez, dans ce passage aussi, nous voyons que le Seigneur Jésus est venu pour révéler Dieu qui est lumière et qui est amour. Peut-être on peut maintenant juste encore faire une remarque générale et puis suivre quelques versets encore dans le Nouveau Testament. En étant nés de nouveau, nous sommes donc appelés enfants de Dieu. Cette nouvelle naissance, on trouve dans Jean 3. Et dans ce chapitre, on trouve aussi cette expression que ce qui est né de la chair est chair, verset 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on voit là que nous avions besoin d'être nés d'une nouvelle source. Et puis ce qu'on a eu ce matin aussi, cette pensée de nouvelle génération sur la base de la résurrection du Seigneur Jésus, c'est en même temps aussi une génération qui est née d'une nouvelle source, ou d'en haut, comme il dit dans ce chapitre-là. Mais d'en haut, ça veut dire d'une nouvelle source, entièrement nouvelle. Et puis, il faut donc penser à ça lorsqu'on lit cette expression « née de Dieu ». Il faut réaliser que c'est donc de Dieu une nouvelle source, de Dieu lui-même. C'est pas simplement une nouvelle source. Mais cette nouvelle source est Dieu lui-même. Et ce Dieu est donc devenu notre Père en nous donnant cette nouvelle vie. On ne peut pas parler maintenant de la nouvelle naissance comme telle. Ce n'est pas maintenant notre objectif. Et cette nouvelle famille est formée. Parce qu'un enfant est né dans une famille. Et puis ça, c'est la grande pensée dans l'Évangile selon Jean. Qu'il y a maintenant une famille. Je voulais juste indiquer 2 versets, et puis après ça, on va continuer dans 1 Jean. D'abord, dans Jean 11, verset 52, dans Jean 11, verset 52, nous lisons, « Et non pas seulement pour la nation, il parle ici de la mort du Seigneur Jésus, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Jusqu'à cette date-là, les disciples qui étaient là, qui étaient nés de nouveau, étaient quand même des enfants de Dieu dispersés. Mais sur la base de la mort du Seigneur, ils seraient réunis ensemble, ce qu'on trouve aussi dans Jean 10, en rapport avec ce troupeau, un berger, ou un berger et un troupeau. Et puis, ces enfants de Dieu sont mis ensemble, et puis, pour comprendre ça, on doit lire aussi Jean 20, puis plus tard, Dieu voulant, on va revenir à Jean 20, en rapport avec le fait que nous sommes aussi des frères. Juste une petite parenthèse, c'est très beau de voir ce progrès. On commence très bas, comme esclaves, et puis on avance un peu, comme disciples, et puis là on voit qu'on est enfant de Dieu, enfant du Père même, le Père nous aime, puis on est fils de Dieu. Et on va voir, Dieu voulant, la prochaine fois, ce que nous sommes pour le cœur de Dieu. Et puis on voit qu'on est placé, pour ainsi dire, à côté du Seigneur Jésus comme étant ses frères. Ça c'est le résultat. Mais comme enfant de Dieu, on est mis ensemble dans une famille, une même famille, et c'est ça qu'on trouve dans Jean 20, aussi sur la base de la résurrection du Seigneur, verset 22. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. On va encore parler de l'Esprit Saint plus tard. Ici, c'est donc la communication de cette nouvelle vie sur la base de la résurrection. Et ça donne donc, cette communication de cette nouvelle vie nous lie ensemble dans cette famille de Dieu. Donc, on a d'un côté cette relation individuelle comme enfant. Un enfant avec le Père, c'est très personnel, très intime, très individuel. Mais en même temps, c'est une famille. Tous les enfants de Dieu, maintenant, sont placés dans une même famille. Et ça, c'est la grande pensée dans Jean, que nous sommes maintenant introduits dans la famille de Dieu. Dieu, notre Père, son Fils bien-aimé, est notre vie, et c'est communiqué par l'Esprit, et puis les uns, les autres, liés ensemble comme les enfants de Dieu. Quel privilège! Mais on va voir, il y a un but pour ça. Deux raisons, on va voir plus tard aussi pour satisfaire le cœur de Dieu. Mais pour le moment, le but c'est pour manifester Dieu dans ce monde où Dieu est rejeté. Et pour comprendre cela, 1 Jean, d'abord deux versets dans 1 Jean pour expliquer ça. 1 Jean 2, verset 8. Où nous voyons la lumière. Nous avons vu que le Seigneur Jésus était la vraie lumière. Et dans 1 Jean 1, verset 5, nous lisons donc, « Dieu est lumière. » Dans chapitre 2, verset 8, « Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres s'en vont et que la vraie lumière lui déjà. Ce qui est vrai en lui et en vous. Vous voyez, le Seigneur Jésus était vraiment la lumière qui a brillé ici-bas. Mais maintenant, la parole dit, ce qui était vrai en lui est maintenant aussi vrai en vous. Si lui était la lumière, mais il est maintenant dans la gloire, maintenant vous êtes la vraie lumière qui lui déjà. Ça, c'est notre position. Selon cette relation, enfants de Dieu, nous sommes maintenant des lumières pour briller ici-bas. Et l'autre verset, dans 1 Jean 4, verset 17, non, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Personne ne vit jamais Dieu. Presque la même expression qu'on a trouvée dans Jean 1, verset 18. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Qu'est-ce qu'on trouve ici? L'amour. Vous voyez, la lumière, dans 1 Jean 2, verset 8, nous sommes maintenant la vraie lumière. Voilà. Personne n'a jamais vu Dieu. Les gens dans ce monde-là n'ont jamais vu Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent voir Dieu maintenant? Ils peuvent voir Dieu en nous. si nous nous aimons l'un l'autre. Ça, c'est quelque chose à méditer. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Maintenant, Dieu est vu comme amour en nous, en vous et moi. Donc, ici dans chapitre 4, 1 Jean 4 nous parle de l'amour de Dieu. Dans le verset 7, l'amour est de Dieu. Donc, Dieu est la source de l'amour. Mais ça va encore plus loin. Dieu n'est pas seulement la source de l'amour. Verset 8 nous dit, Dieu est amour. Et ça, c'est vraiment sa nature. On voit que Dieu est lumière essentiellement. Ce que Dieu est lumière. Il habite dans la lumière, il demeure dans la lumière, il se révèle selon ce caractère-là. Mais sa nature est amour. Et ces deux aspects sont donc maintenant manifestés par les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a laissés ici-bas. Pour que le monde voit déjà maintenant, lorsque notre Seigneur Jésus est rejeté, lorsque Dieu est rejeté, lorsque nous sommes rejetés, quand même, quelque chose de Dieu est vu, comme lumière et comme amour. Maintenant, le chapitre 3. 1 Jean 3. D'abord, le verset 29, chapitre 2, parce que ça va ensemble. Donc, 1 Jean 2, verset 29, et on continue jusqu'à 3, verset 3. « Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Donc, de nouveau, cette pensée, né de lui, né de Dieu. « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. On va voir ici deux grandes pensées en rapport avec le fait que nous sommes enfants de Dieu. D'abord, le côté du privilège. À la fin, je vais juste brièvement répéter quelques caractéristiques des enfants de Dieu. Mais ici, nous avons donc le côté des privilèges. C'est un immense privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et j'aimerais juste lire après quelques versets là-dessus. Et puis, ça donne en même temps une grande responsabilité. Noblesse oblige. Si on a une naissance tellement élevée, tellement importante, ça donne aussi une obligation spéciale. Et pas seulement dans le futur où nous serons manifestés avec lui, mais déjà maintenant, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Le troisième point ici à remarquer, c'est aussi que nous avons donc une espérance. Les enfants de Dieu ont une espérance. Donc ce sont trois points qu'on peut peut-être un peu élaborer. D'abord, cette pensée-là du privilège, que le Père nous aime. On a vu donc que c'est notre tâche maintenant de représenter Dieu, de manifester amour, ce que Dieu est, et lumière. Mais pour faire cela, Dieu nous donne son amour. Il est amour, mais l'amour vient aussi de lui. Et il nous aime. Et je pense que c'est important de réaliser ça, que il y a un autre verset, verset 2, bien-aimés. Et ailleurs, on lit que nous sommes des bien-aimés enfants de Dieu. Donc, ça parle de cette relation d'intimité et d'amour. Et dans Jean, dans l'évangile selon Jean, on voit vraiment comment le Père nous aime. Et c'est donc très important de jouir de cet amour. Je me rappelle une histoire des enfants avant la Deuxième Guerre mondiale, des enfants de quelques frères en Allemagne. Et puis là, dans ce temps-là, les enfants étaient supposés, tous les enfants étaient supposés d'appartenir à un certain groupe de jeunesse. Et puis c'était donc pour glorifier Hitler. Et puis, ces enfants n'ont pas eu la permission de leurs parents d'appartenir à ce groupe-là. Puis ça, cela leur a donné beaucoup de misère. Mais à la maison, ils ont joui de l'amour paternel. Et c'est la même chose pour nous maintenant. Dieu nous donne son amour. Il nous aime d'une façon particulière. Pourquoi? Pour nous rendre capables de manifester maintenant cet amour, ce que Dieu est dans ce monde. Et dans Jean 14, nous voyons quelque chose de cet amour. Dans Jean 14, versets 21 et 23, et nous allons voir que, comme j'ai dit, noblesse oblige, le côté du privilège et le côté de la responsabilité est toujours lié ensemble. On ne peut pas les délier, pour ainsi dire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. L'obéissance et l'amour vont ensemble. Mais c'est de notre côté ici. Mais il continue, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est maintenant du côté du Père. Il va révéler son amour. Si nous sommes obéissants, si nous gardons ses commandements, le Père nous aimera. Est-ce qu'il ne m'aime pas si je suis désobéissant? Oui, il m'aime, mais il ne peut pas exprimer cet amour librement. Moi, je l'empêche à montrer vraiment la plénitude de cet amour. Il va montrer cet amour quand même dans la discipline, mais il est restreint dans l'expression de cet amour. Puis, dans le verset 23, Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ça va encore plus loin. Si nous jouissons de cette relation avec le Seigneur, on va garder sa parole, pas seulement des pensées exprimées clairement, mais toute sa parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, mon Père l'aimera. Et c'est cette pensée-là que j'aimerais souligner maintenant. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous jouissons de cet amour paternel. Comme le Seigneur Jésus était aimé du Père, nous sommes maintenant aimés du Père. Le même amour. Chapitre 15. Nous voyons dans le verset 10 que le Seigneur Jésus dit, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Donc le Seigneur Jésus est demeuré dans l'amour du Père, et c'est maintenant notre tâche, pour ainsi dire, demeurer dans cet amour, dans une communion, une vraie communion avec le Seigneur. Ça va ensemble. Dans le chapitre 16, où nous voyons notre position dans le monde, où le Seigneur Jésus a été haï et rejeté, c'est pour les disciples la même chose. Mais il les encourage par la même pensée à la fin du chapitre 16, verset 26, « En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai des demandes au Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Merveilleuse pensée. « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. » Donc, comme on voit dans le chapitre 16, ça donne notre position dans le monde où le Seigneur est rejeté, où Dieu est rejeté. Mais dans cette position, nous pouvons jouir de cet amour merveilleux. Et plus loin, dans le chapitre 17, on va voir que plus tard, on va avoir la jouissance de cet amour du Père, verset 22, ou plus loin, je pense un peu plus loin encore. Ah oui, dans le verset 23. Le verset 23, « Afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, ça veut dire, le Père nous aime d'un même amour avec lequel il a aimé le Seigneur Jésus. « Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, pour représenter Dieu maintenant dans ce monde, comme le Seigneur Jésus l'a fait dans son temps, nous jouissons d'un même amour du Père. Et plus loin, on voit dans le verset 26 que le Seigneur Jésus lui-même nous fait connaître le Père. Verset 26, « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » Donc, ce que nous avons vu maintenant, c'est le côté du privilège, d'un côté, pouvoir jouir dans cet amour du Père, et puis, ça nous donne la force pour représenter Dieu ici-bas, comme lumière et comme amour. Mais dans 1 Jean, on voit qu'il est très pratique. Il dit, pour ainsi dire, tu peux dire que tu aimes Dieu, mais si tu n'aimes pas ton frère, dans ce cas-là, je ne crois pas que c'est vrai. Il dit, pour le dire dans nos mots, dans nos paroles, laisse-moi voir cet amour. Si tu aimes vraiment Dieu, cela est vu dans les relations entre les enfants de Dieu. Donc, on peut voir ça d'abord dans le chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu, donc 1 Jean 3, verset 9, pour revenir à 1 Jean 3, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc ça, c'est notre relation. Si on est né de Dieu, la semence de Dieu demeure en nous et on ne peut pas pécher. Ça veut dire que cette nouvelle nature ne peut pas pécher. Dans le verset 10, « Car ceux-ci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Ce sont donc deux races opposées, deux générations opposées. Les enfants de Dieu, les enfants du diable, de l'iniquité. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. » Ça, c'est remarquable. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. » Verset 11, « Car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre. » Et aussi, un peu plus loin, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » À quoi? Parce que nous aimons les frères. Vous voyez, ça c'est donc très pratique. Cet amour de Dieu est vu dans ce monde dans le fait que nous aimons les frères. C'est donc très pratique, cet amour qui se manifeste dans la famille de Dieu. Mais j'aimerais revenir maintenant au début du chapitre 3. On voit donc que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et cela donne donc une responsabilité très spéciale. Mais il continue maintenant, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire, c'est pas encore manifesté au monde. C'est clair pour nous, ce que nous serons, parce que nous serons semblables au bien-aimé. Nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Là, on voit deux aspects. Nous lui serons semblables, comme des enfants de Dieu, mais nous verrons aussi sa gloire. C'est comme Jean 17, verset 22, le Seigneur partage sa gloire avec nous, mais dans le verset 24, nous verrons sa gloire, nous contemplerons sa gloire. C'est ça qu'on a ici. Nous le verrons comme il est. Il sera l'objet de notre adoration. Et puis, ce que nous serons dans le futur comme enfants de Dieu a donc une conséquence très pratique, verset 3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Donc d'un côté, on a cette espérance, cette promesse, ce que nous serons pour toute l'éternité, les enfants de Dieu. Et comme un frère a exprimé une fois, nous étions ici-bas comme le mot français, caterpillar, chenille, et puis ça devient un papillon. Et ce papillon manifeste toutes ses beautés. Ce sera manifesté au monde d'une façon parfaite. Nous serons comme ces papillons qui manifesteront ces gloires de Dieu d'une façon particulière. On va voir ça, Dieu voulant, à la fin d'Apocalypse. Mais ici, c'est souvent encore caché à cause de nos manquements. Mais en principe, on a donc vu que nous manifestons Dieu comme amour et comme lumière. Et cette espérance maintenant que nous avons, que nous serons comme parfaits, comme semblables au bien-aimé, cela a une conséquence très pratique. Cela nous purifie. Ça se fait automatiquement. Le moment où cette espérance bienheureuse est dans notre cœur, cela nous purifie. Si on voit ce bien-aimé devant nos cœurs, devant nos yeux, cela a un effet très pratique, tout de suite. Et c'est ça qu'on trouve dans le verset 3. Il se purifie comme lui est pur. Il ne dit pas, il faut qu'il se purifie. Non, c'est quelque chose d'automatique, pour ainsi dire. Lorsqu'on voit le bien-aimé, on a cette espérance, on voit qu'on sera lui semblable. Voilà, cela a un effet pratique tout de suite dans ma vie. Comme lui est pur. Il est le standard. J'atteindrai jamais ce standard élevé ici-bas dans ce monde. Mais c'est quand même le standard, comme lui est pur. Donc, pur, c'est le côté de la lumière de nouveau. On voit souvent que la lumière et l'amour vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Peut-être il y aura encore d'autres versets à souligner dans 1 Jean 4 et 5, qui nous parlent du fait que nous sommes nés de Dieu. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour cela. Vous pouvez les relire aussi à la maison. Juste pour mentionner encore un verset dans chapitre 5. Nous voyons « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. » Donc ça veut dire on aime toute cette famille de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu ont été engendrés par Dieu. Et puis, on les aime tous. Mais en même temps, on voit que ça va ensemble avec garder ses commandements. Verset 2, « Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. » C'est le test maintenant. C'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Vous voyez, on ne peut pas aimer les enfants de Dieu en méprisant les commandements de Dieu. Ce serait une ruse de l'ennemi. Et puis, on a deux épîtres après. Deux gens qui nous montrent que l'amour ne doit pas prévaler contre la vérité. En autre mot, que là, c'est une sœur qui aurait peut-être la tendance de montrer plus d'amour et puis diminuer un peu la vérité. Et puis dans 3 Jean, on voit un frère qui serait peut-être incliné à maintenir la vérité et négliger l'amour. Mais on a donc ces deux épîtres pour montrer ce qu'il dit dans 1 Jean 5, verset 2, comment maintenir l'amour et les commandements. Donc l'amour et la lumière, parce que les commandements parlent de l'obéissance et du fait que Dieu est l'amour, de sa justice et tout ça. Et puis il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Et puis dans ce cas-là, après ça, il dit dans verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Il y a donc une puissance en nous, une puissance pour vaincre le monde. C'est tellement merveilleux. On n'a pas le temps maintenant pour montrer ça, mais souvent on voit ici le croyant comme un vainqueur dans cet épître-là. Dieu nous a placés ici donc comme lumière, comme amour pour le représenter et en même temps donner cette force, cette énergie pour vaincre le monde. Jean 16, nous avons vu le Seigneur qui parle de la haine de ce monde. Il est quand même celui qui a remporté la victoire. C'est maintenant nous aussi qui peuvent être victorieux par cette puissance qu'il nous donne. Donc, quelques aspects de ces enfants de Dieu, on les retrouve dans les écrits de Paul. On a maintenant eu quelques passages de Jean qui nous donne la vie de Dieu qui nous présente donc que nous sommes des enfants de Dieu ici-bas, qui nous donne la vie éternelle. Donc tout ce que Dieu a donné, il nous a donné ça déjà ici-bas dans ce monde. Et dans les écrits de Paul, en général, on voit que Paul nous donne une position très élevée comme liée avec Christ dans la gloire. Mais c'est remarquable que les deux auteurs nous parlent du fait que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a donc des parallèles entre ces deux auteurs. Et on va voir quelques parallèles maintenant. Dans Romains 8, on a pour la première fois dans les écrits de Paul cette expression que nous sommes des enfants de Dieu. Dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et puis le verset 21, à la fin, que la création soupire maintenant pour être affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Donc deux fois ici, cette expression « enfant de Dieu ». Et la prochaine fois, Dieu voulant, on va aussi étudier l'autre expression qu'on trouve dans le verset 15 et d'autres passages, que nous sommes, au verset 14, que nous sommes « fils de Dieu ». Fils de Dieu, c'est ce que nous sommes pour Dieu dans la communion avec lui. On va voir ça la prochaine fois. Mais en même temps, nous sommes « enfants de Dieu » en rapport avec le fait que nous sommes dans ce monde pour montrer ce que Dieu est. Et ce sera une vérité pour toujours. Comme j'ai dit, c'est une relation éternelle. Maintenant, on représente Dieu dans une création, dans un monde où il est rejeté. Et le verset 17, à la fin, nous a indiqué cela. « Si du moins nous souffrons avec lui, si nous représentons Dieu ici, c'est quand même dans la communion avec le Seigneur Jésus. Lui était rejeté ici-bas et il sympathise avec nous. Si nous sommes fidèles, il sympathise avec nous. Si du moins nous souffrons avec lui, ce n'est pas les souffrances expiatoires, c'est clair. C'est maintenant les mêmes souffrances dans ce sens-là que le Seigneur Jésus a eu comme rejeté par ce monde, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Donc, plus tard, on sera enfant de Dieu dans l'univers pour représenter Dieu, dans le nouveau monde. À la fin, j'espère lire un verset dans Apocalypse pour montrer cela. Donc, Romains 8, verset 16, nous donne une autre caractéristique maintenant. C'est l'aide de l'Esprit. On a vu donc l'exemple du Seigneur Jésus. Il est notre exemple. Il était le vrai enfant de Dieu. Je le dis avec révérence parce que ce n'est pas une expression biblique. Il a montré que Dieu est amour, que Dieu est lumière. Il est notre exemple parfait et notre standard. Maintenant, nous avons aussi l'amour du Père, comme on a vu dans Jean. Mais Dieu nous donne aussi une autre ressource, l'Esprit lui-même, une personne divine qui habite en nous, qui demeure en nous, selon cet enseignement de Romains 8 et d'autres passages, aussi dans Jean. Mais il soutient maintenant notre témoignage. Il nous soutient et puis il rend témoignage à notre esprit. Donc, nous sommes enfants de Dieu, c'est une vérité objective, c'est valable pour tous les enfants de Dieu. Mais est-ce que tous les enfants de Dieu réalisent cela? Souvent pas, parce que l'esprit n'a pas de place dans leur pensée ou dans leur vie. Mais si l'esprit a vraiment une place dans nos pensées, dans notre cœur, l'esprit va montrer quelque chose. Et c'est ça qu'on trouve ici, verset 16. Il rend témoignage avec notre esprit. C'est pas seulement à notre esprit, mais il s'identifie avec notre témoignage. Donc on peut dire, l'Esprit soutient notre témoignage. Quelle ressource! Nous avons vu, nous sommes très faibles pour représenter Dieu ici-bas. Et Dieu nous donne ses ressources. Aussi, l'exemple du Seigneur, son amour, mais maintenant, l'Esprit lui-même. On a lu, le Père lui-même vous aime. C'est l'Esprit lui-même. C'est très beau de voir comment l'emphase est mise sur cette pensée-là que l'Esprit lui-même rend témoignage. Le Père lui-même nous aime avec notre esprit. C'est donc une jouissance personnelle de cette relation avec notre esprit. C'est ce que nous faisons d'une façon subjective. Si vous connaissez cette expression, c'est ce que nous réalisons nous-mêmes ensemble avec l'aide de l'Esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, je voulais donner une autre caractéristique encore, que j'ai déjà mentionnée, mais je n'ai pas utilisé cette expression encore, le désert. Nous sommes dans le désert. Ça, c'est une autre caractéristique. Les enfants de Dieu sont maintenant dans le désert, comme le Seigneur Jésus l'était, et plus tard, ils seront dans ce monde, dans un monde nouveau, mais quand même comme enfants de Dieu. Maintenant, avec un Christ rejeté, plus tard avec un Christ glorifié. Maintenant, encore une autre caractéristique. Nous sommes des héritiers. On a vu donc l'espérance, aussi dans 1 Jean 3, et nous avons ici de nouveau cette pensée de l'espérance, verset 17. Nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers comme fils de Dieu. Je ne veux pas parler de ça maintenant, mais nous sommes ici héritiers comme étant enfants. C'est clair, un enfant est aussi héritier. Il hérite de son père cet héritage. Et on voit aussi que c'est ensemble avec le Seigneur Jésus, verset 17, co-hérité du Christ. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir ici que Dieu donne, même dans ce passage-là, cette espérance que nous serons héritiers. Je pense que c'est expliqué dans le verset 21, cette pensée-là, c'est en rapport avec une création libérée du péché. Donc, verset 21, à la fin, nous avons vu que la liberté de la gloire des enfants de Dieu sera une bénédiction pour toute la création. Et j'ai l'impression que l'héritage des enfants de Dieu est en relation avec ça. On va voir que l'héritage des fils, c'est en rapport avec ce que nous sommes pour la satisfaction du cœur de Dieu dans la communion avec lui. Mais c'est ici en rapport avec la création, comme témoignage dans ce monde, que la liberté de la gloire des enfants de Dieu sera une bénédiction pour toute la création. Maintenant, Philippiens 2, on doit avancer un peu vite. Philippiens 2, verset... Ah oui, d'abord juste une pensée générale. De nouveau, d'abord, nous voyons le Seigneur Jésus comme l'exemple parfait. On a cet encouragement dans le verset 3, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire. Et plus bas, verset 5, qu'il y ait donc en vous cette pensée. Nous avons parlé hier de l'importance d'avoir une bonne pensée. Donc, cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus, l'exemple parfait. Et nous voyons plus loin dans ce chapitre, verset 19, que cette pensée était montrée dans Timothée, dans Paul et aussi dans Épaphrodite. Donc, on voit l'exemple du Seigneur, d'un côté, comment cela a été réalisé pratiquement dans la vie de Timothée, dans la vie de Paul et dans la vie d'Épaphrodite. Et entre ces deux, il y a donc cette pensée générale que nous sommes des enfants de Dieu. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure, sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ. Donc, on voit ici cette caractéristique des enfants de Dieu. Juste brièvement, faites toutes choses sans murmure. Donc, il faut toujours garder en mémoire l'exemple du Seigneur, d'un côté, les modèles de l'apôtre et Timothée et Épaphrodite de notre côté, et puis nous avons maintenant cette tâche d'être des enfants de Dieu qui font toutes choses sans murmure. C'est donc On peut soupirer comme avec la création dans Romains 8, mais sans murmure, mais aussi sans raisonnement. Ça, c'est difficile. Souvent, si quelque chose arrive, on va raisonner comme des cas qu'on sait très bien, même du passé récent. On va raisonner, c'est pas bon. Pourquoi Dieu a permis ça? Non, sans raisonnement. Et puis aussi un autre aspect, sans reproche, afin que vous soyez sans reproche. C'est devant Dieu. Et pur, c'est devant les hommes. Des enfants de Dieu irréprochables. Ça, c'est une expression qu'on trouve sept fois en rapport avec les chrétiens dans le Nouveau Testament. Que nous soyons irréprochables. Des enfants de Dieu irréprochables. On le trouve deux fois en rapport avec le Seigneur, comme le sacrifice, au milieu d'une génération tortue et perverse. Donc, une génération tortue et perverse. Ça, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan est donc ce monde mauvais, méchant, ce siècle mauvais, où le Satan est le dieu de ce siècle et le prince de ce monde, qui a sa génération, comme on a vu dans 1 Jean 4 et 3. Mais nous appartenons maintenant à une autre génération. Et cette génération brille au milieu de la génération tortue et perverse. La nouvelle création, nous appartenons déjà à la nouvelle création, brille déjà dans l'ancienne création. Ça, c'est le but de Dieu. Dieu donne un témoignage de la nouvelle création dans l'ancienne création. Et à un moment donné, l'ancienne création sera mise de côté donc entièrement. Mais Dieu donne déjà un témoignage. Et nous sommes maintenant ce témoignage comme des enfants de Dieu, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires. Ici, nous voyons donc cet aspect-là que nous sommes lumière. Ce n'est pas simplement pour refléter la lumière comme la lune reflète la lumière du soleil. Dieu nous a donné la lumière. Par la nouvelle naissance, comme enfants de Dieu, nés de Dieu, nous sommes devenus des luminaires dans ce monde. Il faut toujours voir que Dieu a un but pour cela. Un témoignage dans ce monde pour lui-même, présentant la parole de vie. Ça, c'est le septième point. C'est l'objet. Christ est l'objet. Et maintenant, une différence avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin d'un objet devant lui. Il a représenté Dieu parfaitement, comme amour, comme lumière, sans avoir un objet devant lui. Nous avons cet objet, et en même temps, Christ est donc présenté par nous, par les enfants de Dieu. C'est notre haut appel. C'est notre, nous avons vu donc, noblesse oblige. C'est notre tâche très haute pour présenter la parole de vie. Une petite parenthèse ici, on voit ici que les trois pensées, amour, lumière, vie, sont mises ensemble. La parole de vie. Et puis, un dernier passage, Éphésiens 5. Parce que dans Éphésiens 5, nous avons de nouveau cette pensée, versets 1 et 2. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Et aussi dans le verset 8, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc on a ici ces deux pensées de nouveau, l'amour, la lumière. Marcher dans l'amour, marcher dans la lumière. Et puis, soyez donc imitateurs de Dieu. Nous représentons Dieu maintenant comme imitateur. Nous représentons Dieu comme amour et comme lumière. Ces deux pensées sont mises ensemble ici. Et puis, si on étudie tous les passages, on voit que le chapitre 4 et 5 ensemble nous parlent de cette lumière et de cet amour. Comme aussi Christ, le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même. De nouveau l'exemple, vous voyez, il faut toujours avoir le Seigneur devant nos cœurs. Il a donné le parfait exemple. Mais maintenant, nous pouvons suivre cet exemple. Marcher dans l'amour. Donc, on n'a pas le temps d'élaborer longuement là-dessus. C'était simplement mon but de montrer que là aussi, nous voyons ce privilège que nous avons et cette responsabilité. Parce que c'est quand même une grande responsabilité, comme verset 9, « Enfant de lumière, en toute bonté et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. » Donc, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur, c'est très pratique. Et ça nous donne, ça nous montre donc notre responsabilité. Mais si nous comprenons notre position selon Éphésiens, un appel céleste, assis avec Christ, dans la gloire déjà, ça donne des conséquences très pratiques pour la marche ici-bas, pour représenter Dieu comme des enfants bien-aimés, comme nous avons chanté aussi dans notre cantique. Voilà, nous avons ici cette merveilleuse expression de bien-aimés enfants. Nous avons pensé à l'amour du Père, nous sommes de bien-aimés enfants. Et nous avons cette autre pensée donc pour suivre le Seigneur qui est rejeté dans ce monde. Verset 8, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Nous représentons aussi un Seigneur rejeté et en même temps nous imitons Dieu, donc, comme nous avons vu, pour montrer ce que Dieu est, amour et lumière. Puis pour finir maintenant, dans Apocalypse 21, le verset 11, nous avons cette pensée que nous serons donc des enfants de Dieu pour toute l'éternité. L'expression comme telle, on ne trouve pas là. Parce que ça, c'est beau de voir que nous sommes des enfants de Dieu, mais ensemble, nous sommes vus comme l'épouse. Parce que tous les enfants de Dieu ensemble forment quand même l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau. Et puis, dans l'épouse, on voit ce que les enfants de Dieu sont. Parce que l'épouse reflète, manifeste la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le verset 11 dit? La sainte cité Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Imaginons, ayant la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Que cette compagnie d'enfants de Dieu, ici vue comme la sainte cité ou comme l'épouse, est revêtu de la gloire de Dieu. Mais ça va ensemble avec cette pensée qu'on a dans le chapitre 19, parce que maintenant, dans le temps où le Seigneur est rejeté, nous avons les actes justes des croyants. C'est ça le verset 8, oui. Chapitre 19, verset 8. Sa femme s'est préparée et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Il me dit, écrit, etc. Donc, les justices des saints sont les actes justes des croyants. C'est donc notre pratique ici-bas, maintenant, qui sera vue dans la gloire future. Et en même temps, Dieu va s'identifier avec ça. Dieu va nous donner sa propre gloire. Dieu peut s'identifier entièrement avec cette nouvelle famille, avec cette compagnie bénie. Donc, quelle joie pour nous, quel privilège pour pouvoir représenter